Vous le savez déjà, les psaumes, ça fait partie des livres poétiques de la Bible. Et les psaumes sont qualifiés, ou on le considère comme poétique, pour une raison principale qui se distingue des livres poétiques en français. En français, on parle de poésie. Et quand on parle de poésie, bien, on sait que la poésie se caractérise par notamment des vers, des pieds, un style bien particulier, l'utilisation d'images. Dans l'Ancien Testament, c'est vrai qu'il y a des images, il y a des comparaisons, il y a des figures de style. Mais ce qui fait qu'un livre est poétique dans l'Ancien Testament, c'est en rapport avec ce qu'on appelle le parallélisme. Alors le parallélisme en hébreu, c'est cette façon d'exprimer des idées, soit un parallélisme en utilisant un parallélisme synonymique ou un parallélisme antithétique, et bien d'autres parallélismes. Et quand on commence l'étude des psaumes, c'est important de se rappeler ça, parce que quand on parle de parallélisme dans les psaumes, on parle d'une première partie du verset, qui est en parallèle avec la deuxième partie du verset. Et des fois, dans un même verset, vous avez deux morceaux qui sont en parallèle, puis vous avez encore deux autres qui sont en parallèle. Mais quand on parle de parallélisme, c'est ça, c'est qu'il y a une idée qui est répétée, ou cette idée, elle est répétée par son contraire. Alors si cette idée, vous avez une idée dans la Bible qui est répétée, on appelle ça un parallélisme synonymique, parce que c'est un synonyme, on répète deux fois la même chose. Israël est têtu ou Jacob est obstiné, ça veut dire la même chose. On appelle ça parallélisme synonymique. Israël est têtu ou Jacob est obstiné, ça veut dire la même chose. Alors, par contre, on peut avoir un parallélisme qui exprime l'inverse. Alors, on présente une idée, puis la deuxième partie du... C'est pas tout à fait technique de dire vers, mais en tout cas, on pourrait dire vers. La deuxième partie du vers exprime l'idée opposée. Puis vous avez d'autres types de parallélisme dans l'Ancien Testament, en tous les cas dans les psaumes, dans les livres poétiques, où la première partie du verset présente une idée, puis la deuxième la répète en l'amplifiant. Et on pourrait énumérer toutes sortes de parallélismes, mais les deux principaux, c'est les parallélismes synonymiques, donc on répète deux fois la même chose. Et le deuxième, c'est le parallélisme antithétique, c'est-à-dire qu'on répète l'inverse. D'accord ? Alors les spécialistes, ils ne sont pas d'accord pour classifier les autres types de parallélisme. Il n'y a pas un consensus. Mais pour les deux premiers, il y a un consensus. Parallélisme synonymique et parallélisme antithétique. D'accord ? Alors ça, c'est peut-être un aspect technique quand on parle de la poésie de l'Ancien Testament. Que ce soit dans les psaumes ou dans d'autres livres poétiques de l'Ancien Testament, comme les proverbes, etc., vous allez retrouver cette caractéristique principale. Et c'est ce qui fait que nous avons dans la Bible des livres poétiques, par opposition aux livres narratifs. Et les livres narratifs, ben, le texte y suit. Et dans les traductions qui veulent bien faire ressortir la poésie, les textes ne se suivent pas, c'est comme des vers. Mais contrairement aux français, ce ne sont pas des vers qui ont des pieds, ou des vers qui ont des rimes, parce qu'en français, ça rime la plupart du temps, en poésie, bon, il y a des textes poétiques plus modernes, c'est un peu différent, mais souvent, il y a des rimes, et puis il y a des pieds aussi. Hein. Alors, on a des alexandrins, par exemple, on a toutes sortes de vers en français, mais en hébreu, la poésie, c'est différent, d'accord ? La poésie, ce qui caractérise la poésie, c'est ce qu'on appelle le parallélisme. Alors ça, c'est un petit côté un petit peu technique, mais... Si Dieu se répète dans les livres poétiques, c'est par souci de pédagogie. Parce que quand tu répètes deux fois la même affaire, c'est parce que tu veux insister dessus. Alors il ne faut pas essayer de trouver des interprétations plus ou moins bizarres ou loufoques si le verset dit « Israël est têtu », puis le reste dit « Jacob est obstiné ». Pourquoi il dit Israël ? Pourquoi il dit Jacob ? Il doit y avoir une raison pour laquelle on dit Jacob puis on dit Israël. Non, non, c'est simplement... une répétition, hein, un parallélisme synonymique. Et c'est pour qu'on puisse en rappeler. D'accord ? C'est pour qu'on puisse se rappeler le message. Et parfois, pour mieux se rappeler, on présente l'opposé, complètement l'opposé de ce que la première partie dit. Alors c'est dans ce sens-là que la poésie hébraïque se caractérise. Ça va ? Ce que je voudrais faire ce soir, très rapidement, c'est lire avec vous le psaume 1, parce que c'est le psaume d'introduction. Et on va le regarder très rapidement. On pourrait passer toute la soirée, là, mais on va le regarder très rapidement. Et ensuite, demain et dimanche, on va regarder 1, 2, 3, 4 psaumes, je pense. Et on va les regarder un peu plus en détail. Et on va choisir des psaumes qui appartiennent à des catégories différentes. Parce que ce qui caractérise les psaumes, c'est que les psaumes peuvent se classifier en catégories différentes. Alors c'est intéressant, quand vous lisez un psaume, de vous poser la question suivante: quel est le type de psaume que je suis en train de lire? En fait, dans la lecture du matin, du samedi matin, puis du dimanche matin, si vous regardez sur le programme, je vous ai suggéré 2 psaumes à lire dans votre lecture personnelle. Donc si vous voulez les lire, vous pourrez les lire en vous posant la question: quel genre de psaume est-ce que je suis en train de lire? Parce que dans la Bible, il y a ce qu'on appelle des genres littéraires. Et quand on lit la Bible, c'est important de se rappeler que la Bible est composée de genres littéraires. Alors peut-être que vous pouvez me citer un genre littéraire dans la Bible, ce serait lequel? Il y a des genres apocalyptiques, d'accord? Est-ce qu'il y a d'autres genres littéraires dans la Bible? Oui, les textes de loi, c'est notre genre littéraire. Après, qu'est-ce que vous avez? On a parlé des textes poétiques, hein? Mais même dans les textes poétiques, vous avez différents types de poésie. Vous avez par exemple l'Ecclésiaste, qui est différent de... C'est un genre littéraire différent des autres livres. Vous avez par exemple le livre de Job, qui aborde le problème de la souffrance. Et ça, c'est un genre littéraire différent. Vous avez les textes narratifs, par exemple la Genèse, le Pentateuque. Hein. Vous avez aussi les généalogies. Ça s'interprète de manière particulière, les généalogies. Vous avez les évangiles, vous avez les paraboles, vous avez les épîtres. Il y a toutes sortes de genres littéraires quand on lit la Bible. Et bien souvent, on lit la Bible sans se poser la question quant à savoir quel est le type de littérature que je suis en train de lire. Et souvent, on interprète mal la Bible à cause de cela. Parce qu'on ne comprend pas très bien le genre littéraire, où on ne s'est jamais posé la question quant à savoir quel est le genre littéraire du texte que je suis en train de lire. Alors, pour les psaumes, il y a plusieurs types de psaumes. Est-ce que vous pensez à certains types de psaumes? Comment? Psaume de louange, après. D'imprécation, c'est-à-dire on souhaite le malheur de nos ennemis. Alors, si vous avez quelqu'un dans l'église qui vous lit un psaume d'imprécation, méfiez-vous. Après, qu'est-ce que vous avez? Comment? Des plaintes, oui, ou psaume de lamentation. Après? Ouais, de louange, célébration, ouais. Vous avez, comment? Pardon? Oui, les psaumes de repentance. Hein. De toute façon, on va en voir un, psaume de repentance. Il y a aussi des psaumes de royaux, des psaumes messianiques. Il y a des psaumes de la nature. Hein. Il y a toutes sortes de psaumes dans le psautier. En fait, vous le savez, là, les psaumes, ce sont des livres qui traditionnellement, dans l'histoire de l'Église, ont reflété les expériences des chrétiens. Hein. Et les psaumes sont très connus. Il y en a qui sont extrêmement connus, comme le psaume 23. Hein. Et c'est pour ça que les psaumes sont très aimés. Et c'est pour ça que c'est toujours intéressant d'étudier les psaumes. Alors, donc, ce que je vais vous demander pour demain, et puis dimanche, si vous lisez pendant la petite période de lecture les psaumes suggérés dans le programme, de vous poser la question suivante: à quel genre littéraire appartient le psaume que je suis en train de lire? On ne peut pas regarder ça ce soir-là, mais chaque genre littéraire a des éléments communs. Si vous prenez les psaumes de louange ont tous des éléments communs. Un psaume de repentance a tous les psaumes de repentance ont des éléments communs. Les psaumes de louange ont tous des éléments communs. Alors si ça vous intéresse, vous pouvez regarder ça un petit peu plus en utilisant des ouvrages qui traitent un petit peu de cela. Alors ce qu'on va faire ce soir, on va regarder le psaume 1. Et le psaume 1, c'est un psaume qui sert d'introduction au psautier. En fait, le psaume 1, il aborde un thème qu'on retrouve dans les livres de la sagesse, comme dans les proverbes. Et le thème, c'est le thème des deux chemins. En fait, c'est un psaume qui nous dit, voilà le chemin de la sagesse, et si tu veux connaître la sagesse, ben, suis ce chemin-là, et voilà de quelle manière tu pourras trouver la sagesse à travers les psaumes. C'est un petit peu un psaume d'introduction qui nous est présenté. Alors, on va le lire ensemble. Le psaume 1, moi je lis dans la version de... la Bible du semeur. Donc je ne sais pas si vous avez les mêmes versions, mais dans le psaume 1, verset 1er, « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Heureux l'homme qui ne va pas se tenir sur le chemin des pécheurs. Et heureux l'homme qui ne s'assied pas en la compagnie de ces gens qui se moquent de Dieu. Toute sa joie, il la met dans la loi de l'Éternel qu'il médite jour et nuit. Il prospère comme un arbre implanté près d'un courant d'eau. Il donne toujours son fruit lorsqu'en revient la saison. Son feuillage est toujours vert. Tout ce qu'il fait réussit. Tel n'est pas le cas des méchants. Ils sont pareils à la paille éparpillée par le vent. Aussi, lors du jugement, ils ne subsisteront pas et nul pécheur ne se maintiendra parmi la communauté des justes. Oui, car l'Éternel prend en compte la voie suivie par les justes, mais le sentier des méchants les mène à la ruine. » Alors, ce que je vais vous suggérer aussi pour vos petits moments de lecture pour demain puis après-demain, c'est que les psaumes que je vous ai suggérés, un pour demain, un pour dimanche, vous puissiez non seulement regarder le genre littéraire, mais aussi faire un petit exercice suivant. Moi, quand j'étudie les psaumes, je les étudie verset par verset. Donc, ce que je vais vous présenter ce soir, c'est le fruit de la manière dont j'étudie un psaume. Je ne vais pas vous le démontrer ce soir, mais comment je l'étudie, mais je vous donne une petite explication pour que vous puissiez le faire peut-être vous-même, si vous le voulez, demain matin, puis dimanche matin. Alors, ce que je fais, c'est que je prends les psaumes verset par verset. Donc, j'écris sur ma feuille verset 1, et j'écris en mes propres mots ce que le verset 1 est en train de dire. Donc, j'essaie de le condenser, j'essaie de le résumer le plus possible. Donc, je ne répète pas le verset tel quel, mais je vais écrire, par exemple, verset 1, heureux, puis à côté, je vais marquer, en forme abrégée, là, un égal barré, ça veut dire c'est quelque chose qu'on ne fait pas, puis je marque, marche pas. Et puis, je marque à côté, conseil des méchants. Alors, si vous voulez, il y a des fois où je peux le résumer facilement, le verset. D'autres fois, c'est un peu plus compliqué. Mais ce que j'essaie, c'est d'avoir tout mon psaume comme ça, à part le psaume 119, là, mais sur une même page. Hein, sur une même page. Et le fait que je fasse ça, ça me permet d'intégrer ce que j'ai lu, parce que j'ai dû le réécrire dans mes propres mots. Et quand j'ai fait tout ça, là, j'ai une vision de l'ensemble du psaume. Et là, j'essaie de voir s'il y a des blocs dans le psaume. D'accord ? Est-ce que c'est des blocs de repentance ? Est-ce que c'est un bloc de louange ? Est-ce un bloc qui crie à l'Éternel ? Est-ce que c'est un bloc qui parle de la délivrance ? On n'a pas parlé des psaumes de délivrance, mais il y a des psaumes de délivrance aussi. Alors j'essaie de voir un petit peu s'il y a une structure dans le psaume. Tu sais ? Et ensuite, en faisant ça, ben, ça me permet de déterminer aussi le thème principal du psaume. Quel est le thème principal du psaume ? Et là, ça me permet de donner un titre après à mon psaume. D'accord ? Alors ça, c'est un petit peu un travail que je fais à chaque fois que j'étudie les psaumes. Puis même si notre travail n'est pas parfait, c'est bon parce que ça me permet de mieux intérioriser, intégrer ce que je suis en train de lire. Ça va ? Donc si vous voulez faire ça, c'est pour ça que, enfin demain et dimanche, c'est pour ça que vous aurez, je pense, des feuilles blanches. Ruben, il me dit, prépare-nous des questions. Moi, je ne vous prépare aucune question. Vous prenez le texte biblique, faites comme je fais moi aussi, verset par verset, puis vous écrivez dans vos propres mots ce que le verset dit. C'est tout. D'accord ? Ça va ? Donc, voyez-vous, je ne vais pas vous orienter dans une direction. C'est le texte biblique qui va vous orienter, ce n'est pas moi. Alors maintenant, si on revient au chapitre 1er, et là, je vais peut-être passer un petit peu vite, vous allez m'excuser là, mais parce qu'on n'a pas le temps de regarder ça en détail. Mais on va regarder un élément qui est, avant de commencer le psaume 1, on va regarder quelque chose qui est très important dans les psaumes, un élément qui revient souvent et qui peut nous aider dans la lecture des psaumes pour mieux connaître ce que Dieu nous dit dans ce passage. C'est que souvent, les psaumes, certains psaumes, mettent un accent sur une vie, la vie de l'être humain qui est structurée, qui est organisée, qui est bien orientée. Et j'ai, résumé ça en quelque sorte dans... Ah, c'est très sensible. Voilà, dans ces trois sous-sections-là, dans bien des psaumes, la vie du croyant, elle est bien structurée, elle est bien orientée. Tu sais, tu crois en Dieu, tu as ta foi en Dieu, puis c'est correct, là, Dieu est avec toi, puis ta vie a pas... Tu sais, ça semble aller bien aller parce que Dieu est avec toi. Tu sais. Et vous avez, par exemple, des psaumes, les psaumes de la création qui nous montrent que Dieu a tout organisé, a tout structuré, puis tout est bien en place, tout est bien en ordre, tout est bien à sa place. Et vous avez aussi les psaumes de la loi qui vont aussi dans cette même direction-là. Mais dans les psaumes, nous avons aussi un autre élément qui intervient souvent, et c'est ce qui fait que les psaumes forment la lecture privilégiée des chrétiens parfois, c'est ce qu'on appelle la désorientation. Ah ben là, tout à l'heure, ça marchait bien, maintenant, ça ne marche plus. Voilà. La désorientation. C'est-à-dire que face à la réalité et au vécu, on a l'impression qu'il y a un gouffre entre ce que je vis, ce que la Bible me dit, ce que la Bible me dit de Dieu, ce que la Bible me dit de moi. Puis je passe par des doutes, je passe par des crises. La réalité, le vécu, parce qu'on vit dans un monde pécheur, fait en sorte que bien souvent, les choses ne marchent pas comme on pense. Et puis la vie chrétienne, ce n'est pas un petit jardin de roses bien tranquille. Et d'ailleurs, les psalmistes n'ont pas peur de faire monter à Dieu tous leurs questionnements, toutes leurs souffrances, en disant à Dieu, je ne comprends plus ce qui se passe. Et ça décrit ce qu'un théologien appelait la désorientation. Et cette réalité, voyez-vous, quand face à la réalité puis au vécu, on est dans le doute, on est dans le questionnement, on est dans l'épreuve, ben le psalmiste, lui, il va amener ça à Dieu. Il présente tout ça à Dieu. Dans cette désorientation, en quelque sorte, il est en train de vivre sa foi, même si c'est un moment difficile, il vit sa foi un petit peu à l'ombre de la croix. Tu sais, comme Christ, là, avant d'être arrêté à la croix, hein, il a dit, Père, si c'est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Ça n'avait pas l'air du gâteau, ce qui allait venir. Tu sais. Et parfois, dans notre vie, ce n'est pas du tout du gâteau, même quand tu es chrétien. Donc la vie chrétienne, ce n'est pas une assurance-vie qui consiste à dire que tout ira bien. Parfois, nous passons au travers de bien des doutes. Mais les psaumes nous amènent à un autre élément, c'est que à travers le doute, nous arrivons à une nouvelle orientation de notre vie. C'est-à-dire que nous passons cet élément de doute, nous passons ces moments d'épreuve, et là, Dieu nous fait grandir, Dieu nous fait comprendre certaines choses, et on dirait que d'un seul coup, on retrouve cet équilibre qu'on avait perdu. On retrouve cette orientation de la vie qu'on avait perdue. Et c'est la raison pour laquelle, souvent, dans les psaumes, vous avez des psaumes de supplication. Et puis on supplie, on crie à Dieu, Dieu intervient. Et là, quand Dieu est intervenu, bien, on loue Dieu, on a vu l'intervention de Dieu dans notre vie. Puis de nouveau, là, on retrouve un équilibre en présence de Dieu. Est-ce que vous comprenez un petit peu les étapes qu'on retrouve dans les psaumes là, hein? Alors ça sert un petit peu d'introduction, en général, aux psaumes. On fait ça vite. Psaume 1. Donc rapidement, le psaume 1, si vous regardez la structure du psaume, vous avez l'homme juste. Ce qu'on appelle le tzaddik, en hébreu, c'est l'homme juste. Et on va décrire dans les versets 1 à 3 l'homme juste. Est-ce que c'est toi qui appuies ou c'est moi? C'est moi, hein, d'accord, merci. Donc vous avez les versets 1 à 3, la description de l'homme juste. Voyez-vous, les versets 1 commencent heureux. Hein, et là, on décrit l'homme qui est heureux. Et on décrit de manière négative. L'homme qui est heureux ou la personne qui est heureuse, c'est la personne qui n'adopte pas un certain style de vie. Alors, le texte nous dit au verset 1er, là, il ne marche pas selon le conseil des méchants, il ne se tient pas sur le chemin des pécheurs, il ne s'assied pas en compagnie des gens qui se moquent de Dieu. Donc il y a comme une progression là, dans le mal, hein, qui nous est décrite là. D'abord, il ne marche pas, mais il est encore en mouvement. Après, il se tient sur le chemin des pécheurs. Là, on dirait qu'il commence à s'enraciner un petit peu plus là. Puis non seulement il se tient sur le chemin des pécheurs, mais le verset nous dit qu'à un moment donné, il finit par s'asseoir, tu sais, en compagnie de ceux qui se moquent de Dieu. Alors là, vous avez une progression. Là. Celui qui est heureux, c'est celui qui ne rentre pas dans cette spirale qui l'entraîne de plus en plus à s'éloigner de Dieu, tu sais, à s'enraciner dans le mal. Et ce psaume donc nous présente les deux voies, hein, le voie du juste et le voie du méchant. On voit ça, le parallèle entre les deux dans le psaume 1. Et c'est comme un encouragement à nous dire, écoute, tu veux connaître Dieu, tu veux apprendre à connaître Dieu, il faut que tu choisisses une bonne voie si tu veux apprendre à connaître Dieu. Et cette voie-là nous est décrite dans le psaume 1. Alors au verset 2, on a un autre élément qui décrit ce juste, cet homme qui est heureux. C'est intéressant parce qu'un homme heureux, ce n'est pas juste quelqu'un qui vit une émotion. D'accord ? On peut être heureux parce qu'on va dans une réunion, il y a de la bonne musique, puis on sort de là, on est content. Mais ce n'est pas ça, l'homme qui connaît Dieu et qui suit Dieu. L'homme qui connaît Dieu, c'est un homme qu'on qualifie de juste. Donc ça touche quoi ? Ça ne touche pas d'abord son expérience, ça touche son caractère. Le juste, c'est quelqu'un qui se démarque par rapport au méchant. Le juste, c'est l'homme qui est heureux, le chrétien, ce n'est pas juste quelqu'un qui est heureux, là, tu sais, mais c'est quelqu'un qui a en lui un caractère qui fait qu'il s'approche de Dieu. Et c'est parce qu'il s'approche de Dieu, il connaît Dieu, que là, il va être heureux. Là, tu sais. Alors, au verset 2, on nous dit, « Toute sa joie, dans ma version, il l'a mis dans la loi de l'Éternel, et il la médite jour et nuit. » Alors ça, c'est très intéressant. Hein. Regardez, le verset 2, il parle de l'amour de la loi, l'amour de la parole de Dieu. Puis lire la parole de Dieu, c'est compliqué parfois. Parce qu'on nous parle des gens qui vivent au Proche-Orient il y a 2000 ans, 3000 ans, 3500 ans. Puis là, je ne comprends pas trop ce qu'ils font. Là, pourquoi ils agissent comme ça? Puis moi, je n'agirais pas comme ça si j'étais eux. T'sais. Donc on a une distance historique, culturelle, incroyable entre eux et nous. Parfois, c'est un peu compliqué à lire la parole de Dieu. Mais Dieu a voulu nous parler à travers une coutume, à travers des gens qui ont vécu une certaine époque. Mais si j'aime la parole de Dieu, je vais tout faire pour franchir ces obstacles, pour connaître mieux Dieu puis me rapprocher de lui. Et en fait, le texte ici parle de l'amour de la loi de Dieu. La Torah, c'est la loi, c'est pas juste les 10 commandements. Hein. Ça devient par extension toute la parole de Dieu. Et en lisant ce psaume 1, l'auteur veut nous interpeller en nous posant la question suivante. Est-ce que tu aimes vraiment la parole de Dieu? Est-ce que tu as vraiment de la joie à lire la parole de Dieu? Cette année, on fête le 500e anniversaire de la Réforme. La moitié de l'Europe est devenue protestante. Et la moitié de l'Europe est devenue protestante alors qu'il n'y a pas eu de plan, de calcul qui aurait été fait par certaines personnes pour que toute l'Europe devienne protestante. Ça a été un mouvement qui a placé la parole de Dieu au sein des peuples de l'époque. Les gens avaient soif de lire la Bible, et parce qu'ils avaient soif de lire la Bible, Dieu a provoqué un changement extraordinaire, un réveil. Vous avez Luther en Allemagne, enfin ce qu'on appelle l'Allemagne aujourd'hui, vous avez Tyndale en Angleterre, vous avez Jean Calvin en Suisse francophone, vous avez Zwingli en Suisse germanique, et sans se consulter, ils n'avaient pas Internet, ils n'avaient pas de téléphone. Hein. Bah, Dieu a utilisé ces gens-là à travers l'imprimerie pour mettre la parole entre les mains du peuple et les gens venaient au Seigneur. Et ces gens ont été, il y a des gens qui ont été persécutés parce qu'ils lisaient la Bible. Et aujourd'hui encore, on voit que quelqu'un est chrétien par le rapport qu'il a avec la parole de Dieu. Et la question que le psaume 1 nous pose d'emblée, là, avant qu'on entre dans tous les autres psaumes, c'est est-ce que tu aimes la loi de Dieu? Est-ce que tu aimes la parole de Dieu? Ce n'est pas juste la loi là, qui te dit roule pas à 130 sur l'autoroute. Là, ce n'est pas une loi qui nous restreint, qui nous emprisonne, qu'on trouve lourd. Non, c'est la parole de Dieu est là pour procurer dans notre cœur de la joie. Alors voilà un petit peu le deuxième élément. Et voyez-vous, le texte nous dit au verset 2, il la médite jour et nuit. Alors méditer, le mot méditer en hébreu, c'est un terme qui est un mot qui veut dire que tu mâchouilles. Méditer, ça veut dire que tu réfléchis à la parole de Dieu, tu la repasses dans ton cœur comme faisait Marie, là, puis cette parole de Dieu, elle s'intègre en toi, là, t'sais. Elle fait partie de toi, là, t'sais. Et à un moment donné, tu es marqué par cette parole de Dieu-là. Alors, le verset 3 nous donne une autre description de ce juste. Le verset 3 nous parle de l'arbre. Il est comme un bel arbre qui donne son fruit en sa saison. Mais même quand il ne donne pas de fruit, c'est pas important ça, le feuillage est quand même vert. Et le texte nous dit, tout ce qu'il fait, lui, ça c'est intéressant. Ce n'est pas la réussite selon l'homme, là, c'est la réussite selon Dieu. Hein. Mais tout ce qu'il fait, lui réussit. Deuxième partie du psaume, vous avez ici les impies. On va terminer avec ces impies. Et il nous est décrit au verset 4. Voilà. Mais en ce qui a trait les méchants, ce n'est pas pareil. Alors vous voyez, dans le Nouveau Testament, dans l'Ancien Testament, il y a les justes d'un côté puis les méchants de l'autre. Il n'y a pas de troisième catégorie de gens. Il n'y a pas les bonnes gens entre les deux. Là. Parce qu'on fait des bonnes œuvres. Il n'y en a pas là. C'est les justes ou les méchants. Et le méchant, il est comparé à de la paille, éparpillée par le vent. Quand les Hébreux prenaient les grains de blé, là, Il prenait ça, puis il les jetait en l'air, et puis, enfin, je veux dire, la paille, là, puis il voulait séparer la paille du grain, tu sais. Puis il faisait ça sur une aire, et où il y avait un peu de vent, pour que le vent chasse un peu la paille et que les grains puissent tomber par terre. Il essayait de séparer la paille des grains. Et la paille, c'est ça qui ne tient pas. C'est ça qui est emporté. Ça ne subsiste pas, la paille. Et bien souvent, nos vies sont comme ça, sont comme de la paille. En fait, la Bible dit que notre vie, c'est comme l'herbe des champs. Ça pousse le matin, puis après, ça sèche et puis on disparaît. En fait, l'être humain, il y a toujours eu un problème, c'est comment les gens vont-ils pouvoir se rappeler de moi ? Comment je vais pouvoir marquer l'histoire ? Je ne veux pas que tomber dans l'oubli. En fait, nous tombons dans l'oubli. Là, à part si on est juste. Si on est juste aux yeux de Dieu, là, on ne tombera pas dans l'oubli comme les méchants. Les méchants ne sont pas importants aux yeux de Dieu. Et le verset 4 donc, continue. Et au verset 5, il nous dit « Aussi lors du jugement, ils ne subsisteront pas et nul pécheur ne se maintiendra parmi la communauté des justes. » Alors ça, c'est intéressant. Vous avez deux points là-dedans. Les méchants, ils ne passeront pas le test du jugement. La Bible dit qu'il y a un jugement. Et la deuxième partie du verset nous dit qu'il y a une ligne séparatrice qui intervient, et elle intervient où, la ligne séparatrice, au verset 5 ? Dans la communauté des justes. C'est-à-dire que Dieu est en train de parler à son peuple, et il nous dit, je vais faire une ligne de démarcation au sein du peuple. D'un côté, il y aura des justes, et d'un côté, il y a des méchants. Et Dieu fait une séparation, et même Dieu fait une séparation dans l'Église. Parce qu'il y a bien des gens qui fréquentent l'Église, mais est-ce qu'ils sont tous vraiment chrétiens ? Est-ce qu'ils sont tous disciples de Jésus-Christ ? Est-ce qu'ils sont tous des justes ? Et c'est Dieu qui va faire la séparation. Et là, le verset 6 se termine, voyez-vous, en résumant les deux voies. Parce que là, en guise d'introduction, au psaume, le texte du psaume 1 nous présente deux voies. Alors laquelle tu vas choisir ? Tu vas lire les psaumes, là, mais dans quelle voie tu voudrais être ? Celle du juste ? Celui qui est heureux ? Ou celle du méchant et qui passe ? Et qui ne subsistera pas au jour du jugement ? Et là, le verset nous parle encore une fois du juste. Oui, car l'Éternel prend en compte la voie suivie par les justes. Et de notre côté, le sentier des méchants, lui, y mène à la ruine. Alors voilà un petit peu l'introduction pour ce soir au psautier. Alors comme Ruben l'a dit tout à l'heure, et puis d'autres personnes aussi, notre souhait durant cette fin de semaine, c'est de mieux connaître Dieu à travers les psaumes. On va regarder plusieurs psaumes, psaumes de confiance, psaumes de repentance, il y en a deux autres aussi que j'ai choisis, un psaume qui parle des doutes, comment on fait quand on vit dans des doutes et que notre foi est assiégée de tous les côtés. J'espère qu'à travers ces psaumes, on va pouvoir mieux se rapprocher de Dieu.